affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Notre émission de ce jour est consacrée à un homme qui, plus que tout autre, incarne l'esprit français. Un homme qui a su traduire en émotion la passion française pour la rigueur, pour l'intelligence, pour la raison, pour la géométrie. Un homme aussi qui a su sublimer la nature par la culture. Un homme qui a su, par son génie propre, dépasser l'opposition entre baroque et classique. Un homme qui a su tout à la fois dompter la nature et en sublimer la magnificence. Un homme aussi dont les témoins nous louent l'égale humeur et la rigueur. Un homme enfin qui, par-delà les siècles, flatte aussi notre ego national, raffermit notre fierté, parce qu'il a enchanté l'art du jardin à la française et parce que son génie transcende les siècles, rendant à notre pays le goût de son passé. Si aujourd'hui nombre de Français se souviennent que la France n'a pas commencé en 1789, c'est aussi grâce au patrimoine que nous a légué André Lenôtre, car vous l'aviez compris, il s'agissait bien de lui. André Lenôtre, un homme né voici très exactement 4 siècles et dont il faut honorer la mémoire parce qu'aujourd'hui encore, il contribue au rayonnement de la France plus que tout autre, un homme que nous allons avoir la chance d'évoquer avec l'un de ses meilleurs connaisseurs. Nous recevons en effet aujourd'hui dans nos studios Jean-Pierre Bablon. Jean-Pierre Bablon est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ancien élève de l'École des chartes. Il a consacré l'essentiel de ses recherches à l'histoire de l'architecture au XVIe et au XVIIe siècle. Il était professeur à l'École du Louvre et directeur, surtout directeur, des musées et du domaine de Versailles. Mais bien entendu, comme tous les Français, c'est bien avant qu'il avait découvert les magnificences et les splendeurs des jardins de Lenôtre. Et après lui avoir souhaité la bienvenue dans nos studios, même s'il est ici chez lui en tant qu'académicien, je me permettrai de lui poser cette première question. De quand date cette rencontre avec les jardins de Lenôtre ?
Voilà, comme tous les Français, j'ai été sensible à des espaces jardinés où on pouvait aller se promener lorsqu'on était enfant ou jeune homme. Pour moi, le début, ça a été le jardin du Luxembourg, puisque mes parents habitaient rue de Rennes et que nous rendions très souvent au Luxembourg. Et je m'intéressais notamment au statut des reines de France qui étaient sur les terrasses, n'est-ce pas, qui avaient tout un air d'interrogateur, en se demandant qui est-ce. Et puis, naturellement, j'ai eu aussi beaucoup de liens avec le jardin des Tuileries, à un moment où j'habitais du côté de l'avenue de l'Opéra. C'est très beau, des jardins. J'en ai utilisé où je me rends encore maintenant beaucoup. Et puis, dans un espace plus restreint, le Palais Royal, qui enferme un jardin régulier à l'intérieur des galeries à portiques. Voilà ce qui est les origines de mon attirance pour les jardins. Et puis, bien évidemment, le coup de fouet, si l'on peut dire, qui s'est produit lorsque j'ai été nommé responsable du château et des jardins de Versailles en 1989.
Alors les jardins de Versailles sont bien sûr l'un des chefs-d'œuvre de Lenôtre, mais les Tuileries participent de la genèse de l'homme Lenôtre.
De l'homme Lenôtre, voilà, exactement. J'ajoute une chose, c'est que lorsque j'habitais du côté de l'avenue de l'Opéra, j'avais comme paroisse l'église Saint-Roch, et que donc je côtoyais le buste de Saint-Roch, l'hôtel avec peinture qui lui avait été consacré. Et comme je travaillais beaucoup sur l'église de Saint-Roch, j'ai fait des conférences là-dessus. Et Lenôtre apparaissait vraiment comme un homme qui avait joué un rôle essentiel. Vous savez qu'il habitait tout près, il habitait la maison de son père, de son grand-père, dans les jardins même des Tuileries. Et que, chose extraordinaire, Louis XIV, au moment où Lenôtre avait atteint véritablement sa gloire, lui a permis d'augmenter un petit peu la petite maison de ses parents, et c'était donc à côté du pavillon de Flore, près de l'actuelle rue de Rivoli.
Oui, parce que si je ne me trompe pas, Lenôtre a été même baptisé dans l'église Saint-Roch, et par ailleurs, pour rebondir sur vos propos, et notamment sur cette lignée de jardiniers, si je ne me trompe pas, il s'agissait à l'époque d'une charge.
Oui, tout à fait.
Dont on héritait.
Tout à fait, dont on héritait, je vous dis, il est troisième de sa génération. Et il se trouve que, par le mariage de sa sœur, il s'est trouvé en lien avec la famille Degault, plusieurs générations de Degault, n'est-ce pas ? Pierre Ier, Pierre II et puis Claude. Il a travaillé avec Pierre II et il a eu comme élève véritablement Claude Degault, qui a suivi ses chantiers sur place, n'est-ce pas ? Et que nous retrouvons après ça dans quantité de jardins créés par le nôtre dans la seconde moitié du XVIIe siècle.
Alors toutefois, il ne suffit pas d'hériter une charge pour devenir le nôtre. De quelle façon son talent a-t-il explosé ?
Mais le talent a explosé parce que le jeune Louis XIV a voulu trancher avec les habitudes plus modestes de son père Louis XIII, et que lorsqu'il a voulu véritablement avoir pour lui et pour sa cour, c'est-à-dire pour les courtisans, mais également pour les fêtes, le théâtre, la musique, les ballets, qui lui apparaissaient absolument nécessaires pour accompagner la majesté royale, il lui a semblé que les espaces dont il disposait ne suffisaient pas, et qu'il fallait trouver quelque chose. Donc ce quelque chose amenait à modifier le Louvre à travers les architectes, avoir de grands architectes qui, après François Mansart, Jules Hardouin Mansart, et Levaux, et puis chercher hors de Paris des espaces, puisque la royauté était itinérante et qu'on allait se promener dans un endroit ou dans un autre pour les saisons, pour la chasse notamment. Donc il fallait trouver autre chose où on se déplaçait. La cour était perpétuellement itinérante, c'est vrai qu'on se promenait avec tout le mobilier, et on arrivait dans un château vide qu'on remplissait. Et donc Versailles a commencé à jouer petit à petit ce rôle, n'est-ce pas, un petit château qu'on a commencé à augmenter. Puis on s'est dit, ce château augmenté, la cour s'y plaît bien, c'est agréable, mais on n'a pas les jardins qu'il faut, n'est-ce pas ? Donc il y a une véritable nécessité politique et sociale d'arriver à trouver un jardinier qui pourrait entourer l'ancien petit château de Louis XIII, des espaces qui allaient grandir pour atteindre les proportions considérables que nous connaissons aujourd'hui.
L'œuvre de le nôtre est donc absolument indissociable de l'esprit de l'absolutisme, si je comprends bien. Mais vous avez évoqué le terme de nécessité politique, ça c'est cet aspect, mais aussi de nécessité sociale. Lorsque nous préparions l'émission, vous me disiez, je l'ignorais, qu'à l'époque même de Louis XIV, les jardins de Versailles étaient des jardins d'ores et déjà publics, et même plus publics qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui l'entrée est payante, alors qu'à l'époque, elle ne l'était pas. Pouvez-vous nous faire revivre la vie des jardins du château de Versailles à l'époque de Louis XIV, et cette vie au-delà de la vie de la cour ? On imagine bien le roi déambulant avec les monarques étrangers ou leurs représentants, et l'ensemble de la cour dans les jardins. On imagine moins le petit peuple de Versailles investissant ses châteaux. Comment le faisait-il ?
Eh bien, écoutez, comme vous le disiez, les portes, les grilles étaient ouvertes. Vous savez que pour entrer dans le château, on pouvait aussi se procurer un tricorne en entrant, ou une épée, je ne me souviens plus, pour entrer dans le château, qui avait aussi des heures de public, accès public pour certains espaces. Mais le jardin lui-même était ouvert. Et donc, toutes les populations versaillaises considéraient que c'était son jardin public. Et un historien américain très original qui travaille sur la réalité du temps et des usages, qui s'appelle Richard Newton, qui a consacré plusieurs ouvrages à Versailles sous ce plan de la réalité, la réalité de la vie, de la nourriture, des écuries, etc., a pu découvrir en utilisant les archives judiciaires et tout le contrôle des jardins que la population arrivait comme ça, était tellement chez elle qu'il y avait des femmes qui lavaient leur linge dans les bassins de Versailles, il y en avait d'autres qui faisaient tous leurs besoins possibles, il y en a d'autres qui pêchaient, n'est-ce pas ? Donc il y avait toute une organisation, il y avait même des gens qui essayaient de coucher dans les bosquets, n'est-ce pas, qui amenaient leurs livres. Donc
Pour profiter de la fraîcheur.
Voilà, pour faire. Oui. Donc une familiarité avec cet espace que nous n'avons guère dans l'esprit aujourd'hui, où nous pensons toujours à Louis XIV, guidant ses hôtes, couronnés ou pas, n'est-ce pas, et écrivant lui, ayant écrit lui-même la manière de visiter les jardins de Versailles, tellement il était, comment dire, imbu et pénétré de cette idée qu'il était le guide de ses invités à travers les merveilles qu'il avait pu créer grâce au talent de Lenôtre.
Oui, car toutefois, simultanément, ces jardins s'inscrivent dans, vous l'avez dit, dans une volonté politique de se placer, certes, au centre de la France d'une part, mais aussi, on le sait, au centre de l'univers et dans un mouvement contraire, de faire rayonner la France dans le monde. Est-ce que les châteaux de Versailles ne s'inscrivent et les œuvres de Lenôtre en général ne s'inscrivent pas dans cette volonté de rivalité de la cour française et de l'excellence française avec ses partenaires européens, comme on dirait aujourd'hui?
Oui, vous avez tout à fait raison. Il y avait bien évidemment en premier, pour ce qui était de l'apparence extérieure de la culture, de la renommée. Des arts, il y avait l'Italie. Pouvait-on véritablement rivaliser avec l'Italie? Et on assiste au XVIIe siècle, pour tous ceux qui avaient en main le pouvoir, à une recherche de cette éminence, pour ne pas dire une prééminence, française en Europe par rapport à l'Italie. Et nous le sentons, l'époque de Richelieu, par exemple, avec la création de l'Académie française. Après ça, nous avons eu la création tout de suite après, par Colbert, de l'Académie à laquelle j'appartiens, l'Académie d'inscription et belles-lettres. Ensuite, l'Académie des sciences. Et puis, les nombreuses académies des académies d'architecture et de peinture. Donc, il y a toute une évolution, n'est-ce pas, qui tente à prouver qu'il y a véritablement une agitation dans la cervelle des Français pour arriver à créer une nation qui doit s'imposer vis-à-vis des autres, et qui doit s'imposer par la qualité de sa pensée, de sa création, mais aussi de l'implication qu'elle a dans l'organisation de la nature dans laquelle vivent les hommes.
Tout cela nous mène à penser que si le génie propre de Lenôtre est incontestable, si c'est un homme extrêmement complet, il est aussi le fruit de son temps. Qu'est-ce qui nourrit sa réflexion? Est-ce que c'est avant tout un homme de science, un homme de lettres, les deux à la fois?
Eh bien, c'est un homme de science, puisqu'il a porté un grand intérêt à tout ce qui était l'accompagnement de la création des jardins, n'est-ce pas? Les fleurs, les arbres, les espèces diverses, le travail des jardiniers aussi, les aménagements aquatiques nécessaires pour les eaux de Versailles, de Chantilly, etc. Mais c'est aussi un penseur, et un penseur qui a une idée artistique de lien avec l'Italie. On l'a vu avec ces relations qui ont été spécialement révélées récemment par Madame Patricia Bouchenot pour ses relations avec le Bernin, n'est-ce pas? C'est très intéressant, le dialogue entre Lenôtre et le Bernin, soit à Paris, au moment de l'avenue du Bernin à Paris, au moment où il y a eu le grand projet de Bernin pour le Louvre, qui vont être abandonnés, mais aussi la création de la statue de Louis XIV, qui ne plaira pas beaucoup à Louis XIV, mais qu'on a repoussé au fond de la pièce aux des Suisses. Et puis, après ça, le voyage de plusieurs mois de Lenôtre à Rome, où il a rencontré le pape. Le pape tenait absolument à le voir, et il y avait vraiment des quantités d'autorités princières qui voulaient rencontrer cet homme qui était une espèce d'ambassadeur de l'esprit français, qui a joué un très grand rôle dans cette évolution de la culture de notre pays.
Alors, le fait que, vous avez dit, le pape souhaitait le recevoir.
Oui.
Que Lenôtre, en voyage en Italie, veuille rencontrer le pape, nous le concevons aisément, oui. Mais que le pape souhaite le recevoir, cela tente à démontrer que la gloire de Lenôtre, il l'a connue de son vivant.
Il l'a connue de son vivant, oui.
Vivant. C'est un petit peu le contraire d'un artiste romantique, ce Lenôtre.
C'est vrai, tout à fait, vous avez raison. C'est-à-dire que, c'est un... C'est un chef d'orchestre. Il faut voir le nôtre comme un chef d'orchestre, n'est-ce pas? Un chef d'orchestre qui a sa propre pensée pour inventer ce qu'il va créer. Mais le chef d'orchestre est aussi celui qui fait travailler. Et on le voit notamment par un point tout à fait intéressant, c'est qu'il avait énormément de chantiers en France. Énormément, on en retrouve encore. On cherche à identifier vraiment les jardins qu'il a pu créer et qu'on a oubliés. Et en même temps, il voyageait énormément. Le roi l'appelait, le grand Condé l'appelait à Chantilly, etc. Donc il ne pouvait pas être là tout le temps. Et nous avons, grâce à ça, une correspondance qui a été conservée en partie, qui permet de dire, voilà, Monseigneur le prince de Condé s'est étonné de votre absence l'autre jour, qu'est-ce qu'on va faire? Et il répond tout de suite en disant, mais je serai là dans 3 jours, vous n'avez qu'à vous adresser à un tel, n'est-ce pas? Donc c'est un chef d'orchestre qui va et qui vient, qui a laissé des plans, des tracés, des ordres, et qui voit comment ces plans sont réalisés. Et je crois que cette position, s'accroche avec son propre nom, n'est-ce pas? Le nôtre, n'est-ce pas? On a conjugué ce nom de le nôtre, nous avons vu notre, n'est-ce pas? Voilà, et il y a beaucoup d'amusement à tout cela, mais ça prouve que véritablement il était considéré comme quelqu'un qui appartenait à un cercle créateur auquel les grands de ce monde voulaient participer.
Et dont la gloire rejaillissait sur la nation tout entière, d'emblée.
D'emblée, tout à fait.
Lorsque vous nous le décrivez comme chef d'orchestre, animant ses équipes, faisant à la fois face à la commande publique, puisque la commande royale ou même celle de Condé, c'est de la commande publique quand même, et organisant ses chantiers, concevant ses créations, la figure de l'artiste laisse peu à peu la place à celle d'un entrepreneur. Est-ce exagéré ?
Non. Mais un entrepreneur qui, encore une fois, à qui on n'imposait pas les tracés, n'est-ce pas ? On connaît quelquefois des conversations avec Louis XIV en disant, voilà, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ? Avouons une chose, c'est que le nôtre était très cher, n'est-ce pas ? Que ces installations coûtaient des fortunes et que quelquefois les commanditaires trouvaient que ça allait un petit peu loin, même Louis XIV. Mais après ça, il se faisait convaincre, n'est-ce pas, qu'il fallait tout de même faire ces dépenses. Mais il était aussi, lui, personnellement, très bien payé. Et c'est la raison pour laquelle il décidera, ayant constitué, parce qu'il était grand amateur de peinture, une collection très importante de peinture, mais également de sculpture, il décidera à un moment de léguer la majeure partie de ses peintures françaises ou étrangères des plus grands maîtres à Louis XIV lui-même. Il y avait une espèce de désir de reconnaissance de ce que Louis XIV lui avait donné pour arriver à réaliser tout cela. Mais je voudrais aussi insister sur un point qui est tout à fait essentiel. Pour nous, si vous voulez, le jardin La Française, bon, voilà, il y a un château, et puis il y a des grandes allées qui partent dans l'axe du château, qui partent en étoile, il y a des jardins, il y a des bassins qui jalonnent ces grandes lignes droites, etc. Et nous imaginons que le nôtre a transfiguré la nature de ce qu'il avait sous les yeux et sous sa bêche, si on peut dire, pour arriver à créer un concept complètement obligatoire et uniforme. En réalité, il n'en est rien. Versailles, c'est sur cette petite colline, n'est-ce pas, qu'il a dessiné, où était déjà le château, qu'il a dessiné le plan du jardin à la française, tel qu'il est devenu un espèce de paradigme. Mais d'autre part, d'autres espaces, le grand jardinier a conçu ses plans en fonction de la géographie dont il était respectueux. Alors, il y a un certain nombre d'exemples. Citons le cas de Vaulx-Vicomte, n'est-ce pas, où la perspective du château de Vaux ne permettait pas d'avoir une perspective très longue, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a créé en trompe-l'œil un passage du regard au-dessus du vallon qui s'est établissait à la fin des parterres, n'est-ce pas? Et puis, donc, vous êtes au château, vous imaginez que la perspective s'étend à perte de vue, alors qu'en réalité, elle traverse un creux. Et pour arriver à raccrocher le regard, il a eu cette idée d'édifier une statue monumentale d'Hercule, n'est-ce pas, dans le commencement de la forêt, dans le fond, pour accrocher les regards à une ligne droite qui en était une ligne qui n'était pas très longue. Pour d'autres cas, c'est encore plus frappant, n'est-ce pas? Le château de Saint-Germain-en-Laye ne pouvait s'édifier qu'avec des côtés prenant leur axe sur la Seine et non pas sur le château, n'est-ce pas? C'est ce qui fait également la beauté de Saint-Cloud. Il n'était pas question d'édifier des jardins dans l'axe du château de Saint-Cloud. Et là aussi, tout d'un coup, l'intérêt vient du bord de Seine. Et donc, les axes de vision et les axes de descente des points d'eau se font face à la Seine. Et puis, vous avez cette espèce de métamorphose absolument incroyable qui a créé ce jardin que nous dit le nôtre lui-même était celui qu'il aimait le plus, c'est Chantilly, n'est-ce pas? Puisque à Chantilly, vous avez un château bon, qui est sur le côté, qui est sur le long d'un petit chemin, et puis après ça, il a traversé des petites rivières qui sont des affluents de l'Oise. Ce château médiéval, légèrement modifié au XVIe ou au XVIIe siècle, est un château qui est inutilisable pour une perspective, et en plus qui est mal placé. Donc, le nôtre va le laisser complètement de côté, n'est-ce pas? Il ne va pas l'effacer, n'est-ce pas? Mais il va le laisser de côté. Donc, qu'est-ce que c'est? Il crée un axe d'entrée, la montée vers une terrasse où on surplombe tout. On peut tout de même, par le côté, un petit pont, joindre le château. Et puis, on arrive et on découvre tout d'un coup que ce qu'on n'avait pas aperçu, c'est l'effet de surprise, aperçu en haut de la balustrade, c'est tout le déroulé du jardin à la française, qui est un jardin qui ne s'établit pas avec un axe, avec un canal dans l'axe, mais qui s'établit avec un canal qui est en forme de croix, mais dont le bras le plus long est perpendiculaire à la vision. Et donc, on va de surprise en surprise, et lorsqu'on va descendre des escaliers pour se retrouver dans les parterres, on va se dire « Où allons-nous ?» Et vous avez ici, là, vous avez des barques qui sont là, et les nautonniers sont là, et disent eh « Venez, si vous voulez aller quelque part, nous vous emmenons en barque, n'est-ce pas ?» Donc, il faut imaginer Chantilly de cette façon.
Ce qui le ressort de ce que vous dites, en tout cas, c'est ce que l'on peut comprendre, c'est que ce génie dont on peut parfois percevoir le caractère démiurgique des réalisations était toutefois quelqu'un qui avait l'humilité de se couler dans la topographie des lieux, quelqu'un qui, certes, pouvait créer des terrasses, voire terrasser, mais qui se gardait absolument de toute idée de table rase.
Absolument, absolument. Et une chose qui est tout à fait extraordinaire, bon, qu'on découvre aussi dans les livres récents, c'est qu'il établissait des plans pour des grands espaces et il les dessinait pour le commanditaire sur des terrains qui n'appartenaient pas encore au commanditaire. Et lui disait, écoutez, si vous voulez établir le plan que je vous ai dessiné, vous allez acheter 10 hectares, 40 hectares, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé aussi bien à Versailles, avec le Grand Parc, qu'à Chantilly et ailleurs.
Là, on sort de l'attitude de l'entrepreneur, mais on entre terriblement dans celle de l'artiste possédé par son œuvre. Sur ce dialogue entre art et nature, je voudrais illustrer votre propos par une courte citation de Madeleine de Scudéry que je trouve superbe. Elle écrivait à propos de Vaux-le-Vicomte, si je ne me trompe pas, « La nature toute puissante qu'elle est ne peut produire rien de si beau. Et l'art qui se vante de l'imiter souvent, de la surpasser quelquefois et de l'embellir toujours, ne saurait rien faire de si merveilleux. Ainsi on peut dire que ce qu'on voit en ce lieu-là est le chef-d'œuvre de l'art et de la nature joint ensemble. N'est-ce pas cela le miracle de le nôtre?
Le miracle. La création et la nature respectée, servant de support à l'inventivité pour créer le chef-d'œuvre de l'art. Vous savez que les noms que je prononçais tout à l'heure sont des noms qui ont été célébrés, comme vous le disiez, par Madame de Sévigné, par par tous les chroniqueurs et bon, les personnes qui écrivaient les lettres à leur entourage et qui racontaient ce qu'ils avaient vu. Et il faut aussi se rendre compte que Louis XIV, alors que Versailles était en chantier, ça a duré très longtemps, des dizaines d'années, alors que Versailles est chantier, Louis XIV a eu deux chocs. Il a eu, chez justement ses proches. Il a eu un choc à Vaux-le-Vicomte, c'est le premier dont on parle, bon, qu'il a mis intérieurement en fureur, parce que c'était tellement beau qu'il ne pouvait pas être ça. Imaginez que Fouquet, son financier, n'avait pas fait ça en plongeant dans les caisses de l'État. Vous savez ce qui adviendra de Fouquet. Disons, je mets une petite note en bas, que en allant en Italie, le nôtre est allé voir Fouquet, n'est-ce pas ? Il lui a fait une petite visite d'amitié, n'est-ce pas ? En rapport avec tout ce qu'ils avaient connu ensemble. Donc le choc de Louis XIV à Vaux, et puis également le choc de Louis XIV à Chantilly, puisqu'il a été convié par le Grand Condé, épisode célèbre bon, rendu célèbre par le suicide de Vatel, n'est-ce pas, au moment de la réception de la cour. Et Louis XIV avait été absolument stupéfait de ce que Chantilly avait, de ce que le nôtre avait fait à Chantilly pour son cousin, le Grand Condé, ex-ennemi devenu grand courtisan.
Alors justement, puisque vous avez prononcé le mot de courtisan, il semble que dans les chroniques de la cour, le nôtre ait une place particulière. On loue, et même dans l'imaginaire collectif, on parle de le nôtre comme d'un être un petit peu lunaire, en dehors des jeux habituels, politiques de la cour. Mais il semblerait que tout cela ait été un petit peu exagéré. Qu'en est-il ?
C'est-à-dire qu'il avait l'oreille du roi à un point que nous n'imaginons pas, n'est-ce pas ? Vous savez, jusqu'à la fin de sa vie, où le roi le faisait mettre dans la voiture avec laquelle il partait à travers le parc, il y avait une familiarité du roi que le roi n'a certainement eu avec aucun artiste et peut-être avec aucun ministre, n'est-ce pas ? Un sentiment tout à fait extraordinaire qui prouve que le roi avait dans cette invention de le nôtre pour les jardins, une espèce de miroir où il s'apercevait lui-même, n'est-ce pas, en grand créateur face à l'Europe de son temps. Et puis, on s'est aperçu aussi que le nôtre avait été un introducteur pour des gens qui demandaient à être présentés. Voilà, donc il y avait et puis encore une fois, je me répète, cet amour de l'art, amour des peintures, mais aussi, j'insiste, amour des sculptures, puisque ces sculptures ont joué un rôle très très important, majeur, dans la construction de ces jardins. Et aussi, bon, ça c'est un point qui m'a toujours frappé, une espèce d'évocation qui va plus loin que l'Antiquité grecque ou romaine ou de l'Iliade ou de l'Odyssée, si vous voulez. Lorsqu'on a fait le parterre d'eau, il était le parterre d'eau devant le château de Versailles, n'est-ce pas ? Cette extraordinaire grande terrasse animée par ces eaux horizontales qui reflètent le ciel dans tous ses changements. Lorsqu'on a aménagé ça, on voulait mettre des statues qui représenteraient des divinités, n'est-ce pas, aux angles de ces deux. Puis finalement, il a fait un choix tout à fait différent. Il a fait représenter allongé, pour ne pas gêner la vision, mais en même temps pour avoir le charme de femme allongée, il a fait représenter les rivières de France, n'est-ce pas. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire qui me frappe énormément. Et en tant qu'historien d'Henri IV, vous me permettrez de revenir sur quelque chose qui m'est très cher. C'est lorsque Henri IV a aménagé l'urbanisme, le nouvel urbanisme de Paris, il a créé trois places. Une première place qui était celle dessinée devant le Pont Neuf, n'est-ce pas ? Et une petite place triangulaire. Et comme pour la première fois, la France avait un dauphin, puisque le petit Louis XIII venait de naître, il l'a appelé la place Dauphine. Après ça, en plein quartier du Marais, on fait cette grande place carrée avec des magnifiques pavillons à colonnes, vraiment d'une ampleur extraordinaire chaque fois que vous allez à Place des Vosges. Aujourd'hui, vous vous rendez compte de la beauté, la magnificence de la construction, la couleur des pavillons aussi, l'appeler place royale. Et puis, nous sommes passés du Dauphin au Roi. Et la troisième place, qu'il n'a pas eu le temps de réaliser parce qu'il est mort avant, qui devait être une grande place en semi-hémicycle qui conduisait à l'extérieur de Paris, dans le nord du Marais, et devait s'appeler la place de France. Cette place de France, un hémicycle donc, et toutes les rues qui partaient, qui rayonnaient à partir de cette place de France, portaient les noms des provinces de France. Et vous avez encore la rue de Saint-Onge, la rue de Picardie, etc., qui sont les derniers souvenirs de cette place de France. Donc ce désir venir de la royauté vers la divinisation, si l'on peut dire, de la France, bon, Henri IV l'avait fait, et là, le nôtre l'a fait sur les bassins de Versailles.
Oui, c'est-à-dire qu'on passe d'une culture purement intellectuelle à une sorte de mythologie nationale. Dès Henri IV, j'allais dire dès Louis XIV, mais en fait dès Henri IV, il poursuit cette œuvre-là et le nôtre s'en fait l'artisan. Ça m'amène à vous poser la question suivante. Lorsque l'on voit ce condensé de culture et la puissance d'évocation des jardins, notamment ceux de Versailles, comment le nôtre travaillait-il ? Cela sort-il de son esprit à lui ? Ou est-ce l'œuvre d'un groupe ? Consultait-il ? Est-ce que c'est le reflet simplement de la culture commune de l'époque ? Ou le signe d'un dessin mené par un homme, peut-être en relation avec le roi ?
Difficile de vous répondre de façon absolue. Nous avons encore des dessins de Lenôtre. Nous avons aussi des gravures de projets pour Versailles qui n'ont pas été réalisés. Je suppose que Lenôtre définissait une idée catégorique pour une direction, un espace, et puis qu'après ça, bon, l'agence qu'il avait, il avait naturellement cette agence avec Claude Desgaux dont je vous ai parlé, arrivait à définir un petit peu comment on pouvait réaliser ce dessin originel, et puis le nôtre venait l'approuver. Alors, nous avons donc, bon, spécialement à Versailles, nous avons des perspectives, nous avons des fontaines, des marches, des dénivelés, mais nous avons aussi les bosquets. Donc les bosquets sont eux pouvaient être réalisés, si vous voulez, en fonction d'un projet qui pouvait être modifié parce qu'ils étaient enfermés et ils ne faisaient pas partie de la grande perspective. Et ces bosquets sont un point absolument capital pour la compréhension de la diversité de la création. Et je vous avouerai un souvenir particulier, c'est que lorsque j'étais à Versailles, je m'occupais beaucoup évidemment des jardins, et c'est le moment où nous avons restauré le bassin de Lancelade. Et c'était Pierre-André Lablaude que je rencontrais, qui était l'architecte des jardins, n'est-ce pas, que je rencontrais sur place, et on allait voir l'avancement de cet environnement avec ce géant, n'est-ce pas, qui a été projeté sur Terre par la volonté de Jupiter et qui lève sa tête pour cracher quelque chose vers le ciel. Donc, une sculpture d'une violence qu'on imagine rarement quand on parle de la statuaire classique, n'est-ce pas ? Donc, une invention, mais aussi une invention, bien sûr, axée sur une idée politique, c'est-à-dire c'est la fronde que Louis XIV a maté, n'est-ce pas, et qui s'écrase dans la terre, une fronde où il y avait quantité de grands personnages et de membres de la famille royale. Donc, il y a aussi cette idée, je dirais, d'une espèce de manifeste qu'on verrait, un cri qu'on verrait dans les journaux aujourd'hui, une satire, n'est-ce pas, et qui est manifestée ici dans une scène absolument théâtrale. Donc là, pour répondre à votre question, on pouvait évidemment imaginer, là on fera un bosquet, alors comment est-ce qu'on va dessiner et à quoi est-ce qu'on va quelle vocation va-t-on lui donner ?
Puisque vous parlez de bosquet, ça nous amène à évoquer cette rivalité, peut-être formalisée postérieurement, entre Le jardin à la française, sa rigueur, son caractère géographique, son harmonie, fruit de l'esprit humain, le jardin à l'anglaise, prétendument plus spontané, plus naturel. De quand date cette opposition ? Est-ce qu'elle est immédiate ou postérieure ?
Elle est postérieure. C'est-à-dire que la recherche d'une sensation de... Non, la sensation de nature, c'est d'avoir quitté la ligne droite, premièrement, d'avoir pénétré dans les ombrages, deuxièmement, et de pouvoir s'asseoir tranquillement dans un lieu qui n'est pas dans la visibilité de chacun, n'est-ce pas ? Et nous avons pour cela, la première citation que je peux vous donner, c'est tout simplement de Louis XIV. Louis XIV, lorsqu'il parle de la manière de visiter les jardins de Versailles, il a dit « Quand on sera dans le centre de la maison, on fera voir l'obscurité du bas, le grand jet et la nappe au travers de l'ombre. » Et d'autre part, alors pour ce qui est de le nôtre avait voulu, dans ses derniers travaux qui sont attachés au Grand Trianon, n'est-ce pas, qui est conçu d'une façon assez différente de Versailles, comme vous savez, dont on a rénové assez récemment les parterres, ces magnifiques parterres. Le tracé même du Grand Trianon fait qu'il n'a pas un grand axe, il s'accroche magnifiquement à un bras de la croix du Grand Canal, mais il n'a pas un axe immense. Eh bien, dans le Grand Trianon, il y avait sur les côtés de l'entrée, à droite et à gauche, des petites courettes. Et dans la courette de droite, si je ne me trompe, le nôtre avait aménagé ce qu'on appelle le jardin des sources, qui malheureusement n'existe plus. Et il raconte combien ce jardin des sources pouvait être agréable, n'est-ce pas ? Que les dames pouvaient y aller, y passer la journée, qu'ils étaient dans l'ombre, qu'ils pouvaient s'asseoir et qu'ils pouvaient prendre une petite collation et qu'on était là tranquille dans un espace qui n'était pas un espace ordonné. Donc il y avait déjà, par ce jardin des sources, quelque chose qui échappait à ce que nous appelons le jardin à la française et sa rigueur. Mais bien évidemment, au XVIIIe siècle, la pensée va se modifier petit à petit. Une pensée qui est celui de la libération d'un espace dictatorial qui est le jardin créé pour un grand seigneur et encore pire pour le roi, n'est-ce pas ? Donc il faut abandonner les lignes droites, il faut abandonner une vision du soleil perpétuel, il faut pouvoir se promener. C'est donc la définition de la promenade à travers les collines, à travers les arbres, qui est bien évidemment incarnée par Jean-Jacques Rousseau, avec son livre sur le promeneur solitaire, et puis ses habitudes lui-même d'herboriser en accrochant des petites branches de feuilles qu'il cherchait ensuite à identifier. Je suis tout à fait, comment dire, en proximité de tout cela, puisque comme responsable de Chaly, nous sommes voisins d'Ermenonville, que j'ai dans mon autorité la cabane de Jean-Jacques Rousseau, et que nous avons donc là, évidemment, un jardin romantique par excellence. Jardin romantique qui est un jardin qui est avec des espaces pour la promenade, avec des arbres très divers, n'est-ce pas, qui poussent comme ça, avec des couleurs différentes. Mais j'insiste sur le fait avec de l'eau. L'eau est absolument nécessaire pour ces jardins. Elle permet de s'y promener, de regarder, de s'y promener en barque. Et puis le jardin à l'anglaise, à Ermenonville, ménage tout de même des souvenirs de grands personnages ou d'idées, n'est-ce pas, avec des petits édifices, des petits édicules de mémoire, n'est-ce pas, pour les âmes des trépassés, etc., qui déterminent tout de même une... La promenade n'est pas toute seule, n'est-ce pas, on se retrouve avec une évocation des temps anciens.
Il n'en reste pas moins qu'à travers votre discours, je découvre que dans les jardins de Lenôtre, il y a tout à la fois le classicisme, bien sûr, mais aussi, à bien des égards, du baroque, et même des jardins à l'anglaise annonciateurs du romantisme, voire même, avec le hameau de la Reine, une sorte de figure quasi romantique, parce que c'est une sorte de hameau de fermière ou de bergère, si ce n'est pas une figure romantique, qu'est-ce ? Et au final...
Nous ne sommes plus avec le nôtre, au hameau de la Reine.
Non, nous sommes dans l'Uchronie, mais toutefois, ces mouvements d'idées sont intéressants. Ce que j'en retiens, avec un petit clin d'œil cocardier, c'est que finalement, le jardin à l'anglaise et tout ce romantisme, ce n'est que quelque chose de magnifié ensuite comme une création originale, alors qu'elle ne serait qu'un des éléments du jardin à la française.
Non, je ne vous laisserai pas dire ça, les Anglais. Les Anglais nous en voudraient beaucoup. Les Anglais ont créé le jardin. Enfin, le jardin à l'anglais, c'est tout de même un jardin qui appartient à la création, à l'univers britannique. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le mur infranchissable que nous imaginons volontiers entre le jardin à la française et le jardin à l'anglaise est un mur en réalité qui est bas et le regard passe au-dessus du muret.
C'est très bien de m'inviter à quitter cette posture cocardière, d'autant que j'ai appris en lisant l'introduction au très beau livre que vous avez signé avec Jean-Baptiste Leroux, photographe Jean-Baptiste Leroux, sur les jardins de Lenôtre. J'ai appris dans cette introduction que du reste, les Anglais eux-mêmes étaient capables de rendre justice et honneur à Lenôtre, puisque j'ai appris qu'une statue de Lenôtre s'érigeait à Londres. Comme vous le disiez vous-même, les Anglais nous étonneront toujours.
Toujours, heureusement.
Pour conclure sur une note moins académique et moins savante, les jardins, c'est très bien d'en parler, c'est probablement tout aussi bien, après en avoir parlé, de s'y promener, de déambuler. Pour nos auditeurs qui en auraient l'occasion, quel itinéraire, quel cheminement initiatique dans les jardins de Lenôtre proposeriez-vous ?
Mais écoutez, beaucoup de directions, c'est le cas de le dire, s'offrent à nous. Je pense que comment cette découverte ne doit pas se faire tellement à Versailles, parce que c'est une idée qui s'impose à nous de façon trop dictatoriale. Et je reviendrai sur ce que je disais, la découverte, parce qu'il y a aussi la surprise, n'est-ce pas ? La découverte du jardin de Lenôtre à Chantilly est une chose qui continue à me troubler, à me faire sentir véritablement la volonté de création. Et je reviens à nouveau, cette création, bon, qui semble-t-il un élément de cette création que nous dirions volontiers qui n'appartient pas au jardin français, c'est la surprise, n'est-ce pas ? Chantilly est basé sur un certain nombre de surprises. On arrive en bas, on ne voit pas le jardin. On arrive en haut sur la terrasse, on voit bon, effectivement des jardins, mais qui sont un petit peu lointains. On descend l'escalier, on découvre un parterre et le grand canal. Et puis on prend le grand canal et on voit sur le côté ces bosquets magnifiques qui ne sont visibles que sur les bords du grand canal.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette invitation à explorer les jardins à la française et d'en profiter probablement aussi d'un même mouvement par explorer notre histoire de France et notre identité, puisque tous ces jardins en sont un reflet magnifique, au même titre que vous avez parlé du rôle de l'eau. Si tous les bassins bâtis par le nôtre reflètent le ciel, ils sont aussi enracinés dans le génie français et dans la terre de France, dans sa topographie. Pour ceux qui n'auraient pas la chance de pouvoir se rendre à Versailles, à Chantilly, à Saint-Cloud ou à Vaux-le-Vicomte ou en bien d'autres lieux, nous ne pouvons que conseiller de consulter votre ouvrage. titré avec beaucoup de simplicité Le Nôtre, un ouvrage qui est un ouvrage à la fois de texte mais aussi de photographie dû à Jean-Baptiste Leroux et que l'on peut se procurer aux éditions de l'Imprimerie Nationale. Enfin, pour ceux qui s'intéressent plus particulièrement à l'homme Le Nôtre, je ne peux que les inviter à consulter l'ouvrage récent et qui renouvelle notre connaissance de Le Nôtre, celui de Patricia Bouchenaud Deschains. Qui permet réellement de cerner toute la complexité et l'ampleur de ce personnage qui est bien le nôtre.
Et dans ces murs, j'ajouterai un nom, bien évidemment, c'est Eric Orsenna. Voilà. Eric Orsenna, si lié à Versailles, n'est-ce pas, par ses liens familiaux, qui a écrit ce livre, Portrait d'André Le Nôtre, Portrait d'un homme heureux.
Heureux par son caractère, mais heureux aussi par tout ce qu'il nous a apporté. Merci d'avoir été à l'écoute de Canal Académie. Nous vous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.